Bien, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. En espérant que je m'endorme pas trop en vous faisant ma présentation. Effectivement, je suis sur le gros décalage horaire. Donc, ma présentation aujourd'hui est vraiment centrée sur l'œuvre d'Henri Corbin, mais il y aura certainement beaucoup de compléments avec ce que déjà Mathieu Terrier vient de nous présenter et certainement un peu aussi avec ce que Pierre Laurie nous présentera sur Rouge-Béane cet après-midi. Donc, l'objectif de ma communication aujourd'hui, c'est de situer la posture corbinienne de l'amour, de trouver les résonances et les harmonies dans ses multiples recherches, d'identifier les fils de trame communs sous-jacents à sa vision du monde, de soupeser l'influence de cette vision sur son approche et ses descriptions. Bien évidemment, ce programme-là est beaucoup trop vaste pour une seule conférence, mais il m'apparaît plus important d'essayer de cheminer que d'arriver. Donc, plutôt que d'essayer de vider la question par rapport à une période ou à un livre spécifique de Corbin sur la question de l'amour, j'ai décidé de faire une espèce de survol de son œuvre pour circonscrire les principaux mécanismes de la métaphysique de l'amour. Puis, je vais me concentrer plus particulièrement sur son œuvre de jeunesse. Pour ce faire, donc, j'ai décidé de partir de l'œuvre de jeunesse de Corbin, c'est-à-dire de ses premiers travaux publiés dans Ik et Nunc, de ses traductions de Suravardi et de ses textes influencés par le protestantisme. Et j'ai essayé de les télescoper un peu avec ses travaux sur Rouge-Béane Bakhly de Shiraz et le thème de la théophanie, mais plus particulièrement le thème de la théophanie. Quoique l'amour est un thème central de l'œuvre d'Henri Corbin, ce dernier n'en traite pas, je dirais, directement. Pour Corbin, la question n'est pas « qu'est-ce que l'amour? » mais plutôt « qu'est-ce que l'amour manifeste dans la relation à Dieu? » C'est l'opération métaphysique de la relation d'amour qui intéresse Corbin, non pas ce qu'est l'amour. Donc, d'abord, une première remarque sur la détermination de l'amour. Donc, d'abord, le thème qui nous rassemble aujourd'hui est « amour humain, amour divin ». Puis, en réfléchissant à ce thème et à sa signification, je notais l'extrême différence lorsque celui-ci est déterminé. Donc, l'amour humain, l'amour divin, plutôt qu'indéterminé, tel que notre journée l'annonce. Amour humain, amour divin. Et cela m'amène à faire deux remarques préliminaires. D'ailleurs, la première sera un peu plus longue. Donc, en effet, du point de vue métaphysique, la détermination de l'amour envers un objet, hein, qu'il soit humain ou divin, a tout le potentiel d'en séparer, d'en historiciser le principe métaphysique, du moins tel que Corbin l'a exposé dans ses ouvrages, c'est-à-dire dans le contexte de l'expérience mystique et de la gnose qui s'y rattache. Un danger que Corbin soulève avec vigueur, car il pourrait rendre inaccessibles les faits spirituels, les faits religieux, et les symboles à l'anthropologie philosophique. Le problème de l'historicisation n'a rien à voir avec le rejet de l'histoire historique. L'historicisation, telle que la dénonce Corbin, c'est cette approche qui réduit la métaphysique à l'historique. Ici, la question n'est pas de savoir si les faits historiques sont plus vrais que les symboles supportés par la foi, mais bien d'éviter une confrontation qui chercherait à déterminer un vainqueur dans une espèce de polarisation exclusiviste. Le chemin de traverse qui permet à Corbin de contourner cette apparente dualité exclusiviste entre foi et histoire, entre fait et symbole, c'est l'herméneutique. Plus précisément, l'herméneutique de la parole, telle qu'il l'a d'abord explorée dans le protestantisme et plus particulièrement dans l'œuvre de Hamann. La posture herméneutique de Corbin s'ancre dans son parcours théologico-philosophique de jeunesse. En effet, en passant du catholicisme très centré sur l'histoire, surtout au début du 20e siècle, au protestantisme, très centré sur la relation intérieure à Dieu, Corbin fait le choix de l'herméneutique en ne niant jamais la connaissance historique. Il refuse de réduire la vie intérieure à des faits historiques, sociaux ou à des valeurs morales. Cette posture herméneutique profondément protestante lui permet de reconnaître et d'explorer la vie intérieure. Toutefois, cette herméneutique passe par une figure, et cette figure est celle de l'ange. Pour Corbin, l'ange est herméneute. L'ange est médiation, elle-même médiée par la transcendance. L'ange est théophanie. L'ange est la figure qui sort l'humanité du solipsisme du moi, non plus cogito, je pense, espèce d'égoïté du sujet, mais bien cogitor, je suis pensé, apparaître du sujet réel. L'ange est la figure médiane et médiatrice qui fait apparaître le sujet réel, car la conscience de soi distingue alors quel rapport le moi expérimente avec son soi et le perçoit alors comme étant une forme de la pensée de ce soi. Un renversement qu'indique également le terme technique de la significatio passiva. Renversement qui supporte non pas la compréhension déterminée d'un objet, susceptible d'historiciser ce qui apparaît, c'est-à-dire réduire ce qui est vu à un concept explicatif, mais élève l'herméneutique en herméneutique spirituelle, en mode de comprendre, qui est comprésence, cogitor, antériorité éternelle. Corpin résume parfaitement. Je cite, « Le passé n'est pas une chose que l'on dépasse. Il s'agit de comprendre ce qui, une fois rendu ce passé possible, le fit advenir, en fut l'avenir. Dans toute la mesure où une âme ressentit ce possible, parce qu'il lui est mystérieusement congénital, elle en est elle-même à son tour présentement l'avenir. Elle libère ce que l'on appelle le passé de la pesanteur qui faisait de lui le passé. » Plus encore, cette posture philosophique n'est pas qu'une simple posture intellectuelle. Dans le temps d'Eranos, à mon sens, un des plus beaux textes d'Henri Corbin, il parle du regard que l'historien portera sur l'historien des générations futures portera sur le cercle Eranos. Et dit, parlant de l'historien qui étudiera Eranos dans ce futur, peut-être pensera-t-il l'avoir expliqué par une dialectique des causes ingénieuses et profondes. En revanche, il n'aura pas pressenti que le vrai problème eût été de découvrir non pas ce qui explique Eranos, mais ce que Eranos explique en vertu de ce qu'il implique. L'autre concept intimement attaché à l'herméneutique spirituelle, à celle qui implique le sujet, est la phénoménologie. Cette dernière fut d'abord acquise philosophiquement dans la décennie des années 30 et ensuite amplifiée dans l'approfondissement de la métaphysique iranienne, où il retrouve des problèmes similaires à ceux qu'il avait lui-même résolus par ce passage au protestantisme et à l'herméneutique. On pourrait même spéculer que l'identification personnelle de Corbin à la métaphysique iranienne, par exemple lorsqu'il écrit « nous chiites », correspond à l'identification de cette philosophie métaphysique confrontée à des problèmes similaires. Une filiation philosophico-métaphysique qui lui fait reconnaître une tradition d'orientaux se trouvant autant en Europe qu'en Iran. Reconnaissance transhistorique d'une tradition non plus historique, mais métaphysique. C'est ce qu'il nomme la hiéro-histoire ou la méta-histoire. Autrement dit, pour Corbin, un oriental est un métaphysicien ayant fait le choix de l'herméneutique et du symbole, qu'il se trouve en Europe ou en Iran. Une attitude qui lui permet, par exemple, de rapprocher Swedenborg de l'ismaélisme. Une attitude qui se distingue de plusieurs courants pérennialistes qui, lorsqu'il s'agissait de trancher le dilemme histoire ou symbole, ont certes choisi le symbole, mais avec la même attitude dualiste et exclusiviste que l'historicisme qui choisit l'histoire. Par la voie herméneutique, Corbin refuse un dualisme exclusiviste et propose plutôt une dualitude, c'est-à-dire une espèce de réciprocité inclusiviste. Tout cela pour dire que déterminer le rapport de l'humain au divin peut mettre en péril l'édifice métaphysique de la théandrie, c'est-à-dire de l'unité divino-humaine, qui se trouve autant au cœur d'une certaine christologie que d'une certaine imamologie. Bref, l'indétermination du thème de la journée, amour humain, amour du vin, supporte un rapport métaphysique qui implique l'amour comme figure médiane et médiatrice du rapport humain et divin. Deuxième remarque sur ce qui apparaît. La deuxième remarque va être un peu plus courte. Cette deuxième remarque sur le thème de notre journée va être plus courte. Je viens de dire que pour Corbin, la relation d'amour se décrit phénoménologiquement et s'explore herméneutiquement. S'il y a amour, il y a relation. Or, invoquer l'humanité et la divinité par l'amour, c'est évoquer un rapport. Et chez Corbin, ce rapport est avant tout polarité, dualitude, divino-humanité, ou comme il l'écrit, relation théophanique entre ce qui se montre et celui à qui la vision se montre. Dieu se montre à chacun de ceux à qui il se montre, en correspondance avec l'aptitude et le degré spirituel de chacun. Dans l'œuvre de Corbin, ce rapport perceptuel est très souvent exprimé par la citation latine « Talem eum vidi, qualem capere potui », qui peut se traduire par « Je l'ai vu tel que j'avais la capacité de le saisir ». Un rapport perceptuel où ce qui est vu et vécu correspond à ce qui supporte ce lieu d'apparaître qui implique nécessairement le sujet. En bref, Corbin a développé une approche phénoménologico-herméneutique très influencée par le protestantisme qui lui permet de circonscrire l'apparaître de Dieu dans un rapport qui ne réduit pas ce qui apparaît au sujet qui le perçoit ni ne l'objective, mais le traite plutôt dans un rapport de dualitude, dans un rapport de réciprocité dialogique. Le rapport théophanique est un apparaître et ce qui apparaît doit s'interpréter symboliquement comme le chiffre de ce qui l'implique. Avant d'entrer un peu plus en avant dans le sujet, une petite parenthèse sur Eranos et l'amour. Donc, certains se diraient peut-être que les conférences prononcées au Cercle Eranos devraient regorger de perles autour du thème de l'amour, ou même que ce fut probablement un thème central dans leur longue histoire intellectuelle. Après tout, Eranos signifie étymologiquement « apporter sa part au festin ». N'est-ce pas dans l'esprit même de l'amour que d'offrir ce que l'on peut à la hauteur de son être? Je me souvenais aussi du très, très grand nombre d'occurrences de la notion d'amour dans l'imagination créatrice. Je me disais que ce thème devait avoir été au moins le sujet d'une des deux séances à l'origine de ce livre d'Henri Corbin. Donc, je suis allé vérifier. Et en 1955, le thème était l'humain et la sympathie de toute chose. Et en 1956, l'homme et la création. Je me suis dit donc que ce n'était pas du tout le thème de l'amour. Et ensuite, j'ai parcouru l'ensemble des tables des matières des Eranos Yarbour pour réaliser en fait, que le thème de l'amour semble n'avoir jamais été au centre d'un des échanges du célèbre cercle. Donc, ça m'a vraiment. C'est un premier élément où je me suis dit, je vais aller creuser dans cette direction-là. Et je me suis assez rapidement rendu compte que, étrangement, malgré une histoire très, très longue, de plus de 50 ans de rencontres, l'amour n'a jamais été vraiment au cœur du cercle Eranos. Donc, passons maintenant à la période de jeunesse. Donc, philosophie, Eket Nunc, protestantisme et amour. Dans un court texte de 1932 intitulé « Témoignage à Kierkegaard », Corbin réaffirme sa volonté protestante en rappelant que l'humain est face à Dieu dans un rapport paradoxalement disproportionné et même absurde. Où, dit-il, croire, c'est être. Plus loin dans l'article, on sent déjà la tension entre foi et histoire lorsqu'il conclut en disant « La réformation a pu s'incarner dans l'histoire et devenir un bien commun ». Mais au-delà de l'histoire et avant toute grandeur historique, elle reste l'acte unique que pose chaque être humain, réel et seul devant Dieu. Cette posture existentielle de la relation à Dieu soulève une question similaire lorsqu'il s'agit de s'interroger sur l'acte d'amour envers Dieu. Cet acte d'amour est-il même possible? Arrêtons tout de suite le suspense. Effectivement, et ça va faire quelques échos avec ce que Mathieu Terrier nous parlait. Donc, pour les théologiens scolastiques ou rationalistes, comme les nomme Corbin, la relation d'amour à Dieu semble impossible, car, comme le dit Souravardi, citant lui-même l'argument classique des théologiens, « Dieu très haut est trop élevé pour qu'il puisse y avoir une communauté de genre, une homogénéité entre lui et les créatures. » On comprend tout de suite que cette perspective sur l'amour ne sera ni celle de Souravardi, ni celle de Corbin. Pour éviter l'homologation entre Dieu et l'humain dans l'acte d'amour envers Dieu, il faut rappeler que l'amour est une ouverture, un fond sans fond, un grund, pour citer un concept développé par Jacob Boehm et que Corbin aimait bien nommer régulièrement, l'ungrund, le fond sans fond. La porte de sortie de ce dilemme, c'est l'apophatisme et la théophanie. Souravardi résume la situation. Tout être au véhément désir est donc un trouveur qui ne trouve pas. Le désir implique un manque parce qu'il lui est nécessaire de ne pas trouver. Je vais revenir dans quelques instants sur la place centrale de Souravardi et le pont philosophique sur le thème de l'amour à travers l'article, un grand article de Corbin sur l'anthropologie philosophique. Mais poursuivons pour le moment dans les articles de Eketnung. Donc, dans l'article « Quand nous nous réveillerons d'entre les morts », publié en 1933 dans la revue Eketnung, Corbin écrit « Il reste que la parole brise le cercle enchanté du moi solitaire et que l'amour qui se livre n'est ni une hypothèse, ni une norme, mais une passion dans un temps réel. » L'existence éthique, c'est cette instance présente, dépendante de l'autre, du toi unique et simplement humain, qui de l'extérieur heurte par un appel et une contradiction. D'ailleurs, autour de la norme et de la passion, ici, il faut revenir là, à l'œuvre de Jaspers, Carl Jaspers, que Corbin a travaillé aussi dans la même période. Cette perspective indique parfaitement ce que trouve le jeune Corbin chez Souravardi, une pensée symbolique qui ouvre à la réalisation spirituelle personnelle et qui, lorsqu'elle se réalise, transperce l'histoire et supporte ce qui existentifie l'existence humaine dans sa relation à Dieu. Sur le thème de l'histoire et de l'amour, Corbin avait d'ailleurs relevé chez Gaukartun, dans son article inspiré par les recherches de Karl Barth et la théologie dialectique, cette phrase « Qu'il n'y a d'histoire que là où, dans l'amour, il y a réellement foi. » Sur cette voie de l'amour de Dieu, il y a cependant des dangers. Ce qui fait quelques échos à ce qu'on vient d'entendre. Car s'il est possible d'aimer Dieu, certains diront que c'est parce que l'humain a réduit Dieu à cet amour, tandis que d'autres diront que la transcendance de l'amour ne peut atteindre l'ineffabilité divine et donc que ce qui est atteint n'est que pure chimère. À propos de l'objectification de la métaphysique et du vécu de l'existence, c'est-à-dire le problème de l'existentiel, Corbin a indiqué dès 1934 dans « Notes sur existence et foi » que l'amour est la meilleure exemplification des dangers de l'objectification. Il écrit et met en contraste que si discourir sur l'existence en fera un objet, que cela est aussi vrai pour l'amour. Je cite, « Peut-on imaginer un discours sur l'amour? Si ce discours n'est pas lui-même un acte d'amour, il présente peut-être bien une psychologie de l'amour, mais parle en réalité de toute autre chose que de l'amour. Car l'amour, ce n'est pas une donnée générale sur laquelle il y aurait lieu de discourir. » Mais il est une détermination de la vie même et sa qualification. L'amour n'existe qu'en tant que j'aime ou que je suis aimé. Les articles de Corbin tirés de l'éphémère revue protestante Eketnung, fondée par Corbin, Jézéchiel, Depuri, de Rougemont et Schmitt, montrent le traitement et un certain usage de la notion d'amour. Reste que ces articles ne traitent pas spécifiquement de la notion d'amour, ni proprement de son rôle philosophique. Cette notion est plutôt étudiée comme un contrepoint démonstratif d'un problème philosophique plus profond, celui de l'existence humaine face à Dieu. Enfin, puisque je viens de mentionner son nom, il y aurait à s'interroger sur ce que Corbin a assimilé de l'ouvrage de 1939 de son très bon ami Denis de Rougemont, « L'amour et l'Occident », et dans lequel Denis de Rougemont écrit « Aimer au sens de la passion, c'est alors le contraire de vivre. C'est un appauvrissement de l'être, une ascèse sans au-delà, une impuissance à aimer le présent sans l'imaginer comme absent, une fuite sans fin devant la possession. Ici, c'est tout le problème de la finitude, de la mort, comme situation limite qui devrait accompagner la réflexion sur l'amour, car elle thématise le problème de l'antériorité éternelle, de la présence « eketnunk », de la présence ici et maintenant. Donc, passons à un petit intermède sur les recherches philosophiques. Mais j'en profite pour faire une petite parenthèse sur les recherches philosophiques dirigées par Coiré, Henri-Charles Puech et Albert Speyer, publiées entre 1932 et 1937. Ces volumes sont vraiment un monument essentiel de l'histoire des idées philosophiques en France et l'introduction de nombreux thèmes comme l'existence, l'herméneutique, la phénoménologie. Puis en plus, il y a une place très importante du spirituel et du philosophique qui est fait dans ces volumes. Dans une certaine mesure, les recherches philosophiques anticipent l'histoire de la philosophie continentale du 20e siècle. C'est l'introduction en France d'une vraiment une nouvelle génération de philosophes. Puis dans Recherches philosophiques, Corbin va publier deux articles en plus d'une traduction et de très nombreux comptes rendus. Ces deux articles sont pour l'anthropologie philosophique, un traité persan inédit de Souravardi d'Alep, et la théologie dialectique et l'histoire. Comme le titre du premier article l'indique, il s'agit de la première traduction publiée par Corbin d'un texte de Souravardi, mais la traduction du traité est précédée d'une très longue introduction qui va nous plonger au cœur de la perspective corbinienne sur l'anthropologie. Le second texte sur la théologie dialectique et l'histoire ne traite pas d'amour, absolument pas. La seule phrase relative à ce thème-là, je l'ai déjà mentionné, c'est la phrase que j'ai nommée tantôt de Gogarten. Donc, passons à « Pour l'anthropologie philosophique ». Donc, en 1933, Corbin publie « Pour l'anthropologie philosophique ». Notez déjà l'affirmation du titre et l'approche proposée qui est « L'anthropologie philosophique ». Cet article, c'est le tout premier travail du jeune orientaliste qui est officiellement diplômé des langues orientales depuis 1929. En fait, dans cet article, il introduit et traduit « Le familier des amants » de Souravardi, un texte qui sera d'ailleurs retraduit par Corbin à la fin de sa vie et publié en 1976 dans le recueil intitulé « L'archange empourpré ». Un récit titré, dans cette deuxième traduction, « Le vade-mecum des fidèles d'amour ». Deux ans plus tard, en 1935, dans la foulée de ce premier travail d'orientaliste, Corbin va traduire un second récit mystique de Souravardi. Il s'agit du bruissement de l'aile de Gabriel, lui aussi retraduit comme pour le familier des amants dans l'archange empourpré. Il écrit d'ailleurs à propos de lui-même, en relation avec ce travail publié deux ans plus tôt, je cite, « L'un de nous, en publiant la traduction d'un de ses opuscules rédigés en persan, a tenté de délimiter les problèmes que pose non seulement la compréhension historique, mais le discernement du contenu même de ces traités. » Avant d'esquisser rapidement le jalon posé par Corbin dans « Pour l'anthropologie philosophique », il faut d'abord noter et insister sur l'unité de l'œuvre de Corbin. Son approche et ses intérêts dans les années 30 sont tout à fait similaires à ceux de la fin de sa vie. Comme je l'ai déjà dit ailleurs, l'œuvre d'Henri Corbin est une, mais évolutive. S'il parle dans « Pour l'anthropologie philosophique » de l'importance du discernement du contenu de ses traités, il aurait peut-être dit plus tard dans son œuvre « Le discernement des formes spirituelles, cœur de son anthropologie du mundus imaginalis ». Sur le thème de l'anthropologie, rappelons aussi que Corbin préparait au même moment une thèse sur l'anthropologie philosophique. Thèse qui n'a jamais abouti, mais dont certains fragments se trouvent aux archives. D'ailleurs, c'est le plan de la thèse que vous voyez à l'écran. D'où l'importance de ce texte qui laisse transparaître un moment de sa pensée, celui où sa formation théologico-philosophique rencontre sa formation d'orientaliste. Plus intéressant encore, l'introduction de « Pour l'anthropologie philosophique » est en quelque sorte l'application méthodologique de ce que sa thèse devait développer, mais bien évidemment philosophiquement. Dans ce texte, les thèmes principaux de l'œuvre Corbin s'y retrouvent. Histoire et méta-histoire, la présence et le temps présent, la nature double des âmes célestes, mythes et mythiques qui doivent, dans ce texte-là, être compris comme symboles et symboliques, l'individuation préexistentielle des âmes, l'âme du monde et la Sophia éternelle, ainsi que le Mundus Imaginalis qui est présent sous le néologisme soravardien du pays du Non-Haut. Donc, tous ces thèmes-là sont présents dans l'introduction pour l'anthropologie philosophique. Donc, autour de tous ces thèmes, Corbin insiste déjà sur les apports platoniciens et zoroastriens chez Suravardi et sur les aspects symboliques et métaphysiques, mais il est aussi préfiguré sa lecture singulière d'Avicenne, parue en 1954, celle qui avait choqué quelques historiens. Pour Corbin, le familier des amants pose, et je cite, « une anthropologie mythique, les récits symboliques, qui dépasse le dualisme de l'homme et du monde, et tel est le contenu de la gnose. » Passons maintenant à un troisième moment de l'œuvre de jeunesse d'Henri Corbin, autour de ses travaux sur Aman et la théologie de la croix. Dans la même période, Corbin va travailler à fond les textes de Aman, d'ailleurs bien plus que ceux d'Heidegger. Aman, philosophe du luthérianisme, rédigé en 1935, mais qui a été seulement publié en 1982, il y a d'une très, très belle page sur la relation et sur ce qui, dans l'humain, appelle, ouvre, désire, aime la transcendance. Avant de vous présenter cette page, rappelons-nous que le défi de la théologie de la croix, c'est quelque chose comme, dans l'épreuve et la souffrance, continuer d'éprouver l'amour de Dieu. Comme nous l'avons énoncé précédemment, le défi de l'amour de Dieu entraîne une profonde inadéquation entre le sujet et l'objet d'amour. Aimer réellement Dieu, c'est donc transcender sa propre existence face à la transcendance de Dieu et conséquemment de se connaître soi-même hors de soi. Je cite maintenant cette page de Haman. L'âme n'est pas une substance isolée, existant en soi-même et compréhensible par soi-même. Son mode d'être est essentiellement d'exister en relation, d'être lié. Il n'est donc pas question d'une introspection collectionnant les faits particuliers, morcelant le moi en éléments ou en facultés multiples. On ne saurait même parler d'une méthode, d'une marche régulière à suivre. Cette divulgation de l'être à soi-même se produit comme un événement imprévisible, non pas comme une illumination intérieure explicable par le processus interne d'une individualité, mais en liaison réelle avec un fait concret, Christ et la Bible. C'est de cela que Aman témoigne comme du fait qu'il lui a découvert ce qu'il était et ce qu'il pouvait être, et qui lui a permis d'éprouver la parole de Dieu comme la seule lumière, non seulement pour venir à Dieu, mais pour nous connaître nous-mêmes. Là seulement nous est donnée la vérité qui nous rend libres et qui est, à vrai dire, une sagesse céleste, parce que seule elle rend possible ce véritable amour de nous-mêmes auquel appartient Dieu et mon prochain. Être vrai et libre, c'est se reconnaître lié au prochain et à Dieu comme au prochain le plus immédiat. Cette liberté liée à la présence de l'autre moi diffère tout autant de l'idéalisme de la liberté que du déterminisme impuissant à distinguer entre interdépendance personnelle et causalité naturelle. En d'autres mots, le thème de l'amour, sans être central dans l'œuvre de jeunesse de Corbin, est essentiel, car il révèle et met en exergue la tension entre histoire et métaphysique dans le cœur humain. Le thème de l'amour est particulièrement présent à travers ses traductions de Suravardi, mais aussi de Eschyle, Jaspers, Luther et Haman. Ce thème est exemplifié dans la relation des rapports métaphysiques impliqués dans la réalisation spirituelle personnelle. S'aimer soi-même est donc périlleux, car d'un côté, cet amour de soi peut supporter la réalisation spirituelle personnelle, mais de l'autre, nourrir le monstre de l'égoïsme dans un pur solipsisme. Nous pourrions alors nous demander, n'est-il pas mieux de nourrir la potentialité de l'être plutôt que de l'enfermer dans l'objet d'un amour déterminé? Je vais passer maintenant à l'Iran et l'amour mystique. Comme je disais, j'ai fait juste un petit pont. On ne pouvait pas explorer très profondément tout ce thème-là, qui est effectivement extrêmement présent dans les travaux de Corbin. Mais j'ai essayé une petite tentative là, pour ramener quelques éléments autour de la question de la théophanie. Mais aussi rappeler un petit bout d'histoire que je trouve assez intéressant et qui relève bien les tensions intellectuelles autour de thèmes aussi sensibles et même périlleux. En 1958, Corbin va publier la traduction française du Jasmin des fidèles d'amour de Rouzbehan Bakhli-Shirazi. À mon sens, peut-être une des plus belles traductions de Corbin, quoiqu'elles sont pas mal toutes très belles, car elles demandaient une profonde sensibilité philosophico-angélique, je dirais. Nous l'avons déjà dit à propos de la traduction des textes de Souravardi, et plus précisément dans l'incantation de la Simorgue, l'amour mystique de Dieu n'est pas bien vu par les théologiens rationalistes de l'islam et est marqué d'une incompréhension suspicieuse. Comme l'écrit Corbin, ce sera le grand souci de Rouzbehan d'écarter le malentendu perpétué par la malveillance ou l'impuissance des orthodoxes de l'islam légalitaire. Une théophanie n'est pas une incarnation. Ce docétisme n'est rien de moins qu'un réalisme spirituel. D'ailleurs, son intérêt pour l'irfan, pour la gnose, pour les théophanies et pour les mystiques perdus dans l'histoire rendait d'ailleurs certains de ses collègues iranologues un peu perplexes. Et je pense particulièrement ici à Vladimir Ivanov, qui est en quelque sorte l'exemplification de la difficulté d'accès aux idées mystiques. Puis à cet égard-là, la correspondance entre les deux a laissé vraiment des savoureuses traces de leur posture radicalement opposée à l'égard de la tradition mystique. Même si les deux hommes s'intéressent de manière opposée à la mystique, les deux hommes se respectaient profondément. Dans la correspondance, on sent très bien que ce qui intéresse Corbin n'intéresse pas du tout Ivanov. Il y a donc une espèce de complémentarité naturelle entre les deux hommes. Ivanov déterre des trésors de réalité historique, particulièrement autour de l'ismaélisme, et montre, par exemple, que les récits de Marco Polo ou des croisés, ils sont très loin de la réalité. Puis, inversement, Corbin, lui, écrit à Ivanov, « Non, mon affaire, vous le savez, ce sont les spéculations bien abstruses. » Et quand Corbin termine l'édition de l'un de ses manuscrits spéculatifs, comme « Le Jasmin des fidèles d'amour », Ivanov, puis qui, bien sûr, il envoie une copie à Ivanov, avec une lettre, Ivanov ne peut s'empêcher de répondre à Corbin la chose suivante. Thank you very much for your volume on Shir Rouzbehan al-Bakhli. I had no time to read it, but will do it with great interest when I settle in Tehran. As I have explained to you on many occasions, I cannot appreciate the mystic depth and penetration of highly abstruse speculation and feel much greater interest in what may be called popular form of Sufism, Shiism, or Shiite Sufism, which reflect the mentality not of some exceptional individuals, but of wide masses. Dans la correspondance, il faut d'ailleurs remarquer comment Corbin utilise les termes spéculation philosophique et le mot abstru pour désigner la philosophie mystique que Ivanov a un peu de difficulté à pénétrer. Il lui demande même dans une lettre « Me trompais-je si en tant que philosophe, je cède à l'impression que votre conception générale ressortit à la sociologie religieuse plutôt qu'à la philosophie religieuse proprement dit? » On sent toute la politesse ici de Corbin qui écrit à Ivanov. Des textes qui sont spécifiquement la spécialité philosophique de Corbin et sur laquelle il a bien évidemment bâti sa carrière d'iranologue. N'oublions jamais que ce qu'a déterré Corbin des bibliothèques de l'histoire ne correspond pas à ce qu'on pourrait appeler la culture populaire. Ce qu'il a souhaité faire émerger, ce n'est pas ce qui était accessible à toutes et à tous, mais justement ce qui était le plus imperceptible, le plus subtil, le plus caché, le plus ésotérique. Et pour tous ceux qui ont lu Corbin, le raffinement avec lequel il rend lisible l'invisible est probablement l'élément qui fait de lui un penseur, somme toute, on pourrait dire, populaire. Donc, avant de citer deux extraits du Jasmin des Fidèles d'amour, une petite description de Roosevelt par lui-même s'impose. À partir de l'âge 7 ans, dit-il, mon cœur s'est pris de la pratique du dirk et de la dévotion. Je me mis à la recherche de mon secret et en fis l'apprentissage. Ensuite, voici que fit éclosion dans mon cœur l'amour de désir et je sentis mon cœur se fondre dans cet amour. Je passais tout ce temps dans une profonde nostalgie, car à cette même époque, mon cœur plongea dans l'océan du ressouvenir de ma préexistence éternelle et dans la senteur des parfums du monde céleste. Comme je le disais, le jasmin des fidèles d'amour est peut-être l'épitomée de la métaphysique d'amour. La relation d'amour à Dieu fait apparaître une antériorité éternelle. Elle correspond à la théophanie. Elle est, comme le dit Roosevelt, la semence de l'opération divine. Sache-toi qui est passé par l'épreuve de l'amour, que l'amour est la semence de l'opération divine prééternelle. Humecté dans la terre du cœur, d'une eau qui est la pureté de l'attribut, cette semence produit comme fruit la jouissance des mystères. Les fibres de l'âme, au plus intime de l'organe subtil du cœur, sont attendries par cette pureté de l'attribut qui est manifestée par l'intermédiaire de l'opération divine. Je dirais une description qui n'aurait pas à rougir même devant celle de Sainte Thérèse d'Avila. Laissons encore la parole à la magnifique prose de Roosevelt. Tout ce que nous venons de dire ne fait que décrire le mode d'être de l'amour et du fidèle d'amour. La limite de l'amour est le début de la gnose mystique. Dans la gnose mystique, l'amour est au point culminant de la perfection. Si l'amant devient homochrone avec l'aimé, c'est qu'il a atteint la station mystique du Taïd. S'il est frappé de stupeur dans la gnose mystique, c'est qu'il a atteint la station de cette gnose mystique. La limite extrême de l'amour va jusqu'à ces deux stations. Lorsqu'il est devenu parfait gnostique, voici que les attributs divins se montrent à lui par les attributs de sa propre gnose mystique. Mémoration de l'essence, méditation des attributs, c'est encore pudique réserve sur les pas de la sagesse éternelle. Mais la coalescence du regard de l'amant et du regard de l'aimé est impliquée dans le regard de coalescence qui est l'essence de l'amour. Aussi, lorsque l'amour fait éclosion dans l'être, il l'attire jusqu'à cette coalescence par quatre phases, par l'anéantissement de son agir et de ses qualifications propres, par l'anéantissement de cet anéantissement, par la surexistence de l'un et de l'autre, par la surexistence de cette surexistence. Voici que l'amant devient l'aimé. Dans le royaume de la condition seigneuriale, il dispose du mode d'être, de la divinité, il expérimente la suprême félicité. Que son amour, faucon royal, l'emporte alors à la vision du Taïd, l'amant mystique éprouve la joie de l'unifique, réalisant l'atteinte. Il contemple l'œil qui le contemple comme s'il était lui-même cet œil. Quoi retenir de cette magnifique prose? Essentiellement que le Taïd ésotérique énonce une identité de l'être divin qui est à la fois amour, amant et aimé. Au début, j'ai indiqué comment la détermination de l'amour pouvait entraîner un piège, celui de l'historicisme. J'ai ensuite indiqué qu'évoquer l'amour, c'est invoquer un rapport qui, dans le contexte mystique, est un rapport théophanique. Ce rapport, Corbin en parle en utilisant le terme d'éthos, je cite, « où l'atteinte à la quiétude de l'âme peut apparaître comme le suprême paradoxe. » Pourquoi l'identification de l'amour de l'amant et de l'aimé est un suprême paradoxe? Simplement parce que l'âme mystique est une exilée sur la voie du retour. Confrontée à la théophanie, l'âme qui en découvre un secret est pacifiée face à son Seigneur. Une individuation qui progresse jusqu'à l'identification parfaite. Comme le résume Corbin, je cite, « Identité dans la différence de celui qui se révèle et de celui à qui il se révèle. » Voilà le secret du leitmotiv « Talem eum vidi qualem capere potui ». Je l'ai vu tel que j'avais la capacité de le saisir. Enfin, comme le faisait souvent Corbin, je vais citer un oriental d'Occident, Emmanuel Swedenborg, qui résume, à mon sens, parfaitement la relation métaphysique de l'amour. Le corps de chaque esprit et de chaque ange est la forme de son amour. Pour résumer et pour clore, l'amour de Dieu est une exemplification du phénomène du miroir, lui-même typifié par la loi de réversion, non pas éternel retour du même, mais retour à une origine éternelle. Une remontée qui, d'imitation en imitation, exauce les niveaux de réalité herméneutique, suscite une ascension spirituelle et fait pénétrer le pèlerin de l'âme dans un monde où le temps est espace. Une symphonie dont l'exécution serait reprise chaque fois en sonorité plus ample et plus profonde. Celle d'un microcosme dont on ne peut attendre que le monde lui ressemble, mais dont on peut espérer que l'exemple se propage dans le monde. L'amour du totalement autre, l'amour de Dieu, révèle l'éternité retardée, le retard d'être humain. Et c'est pour cela que l'éthos de l'appel de Dieu est nostalgie d'être soi. L'amour de Dieu entraîne une nostalgie de soi, révèle la part manquante, pour reprendre un titre célèbre de Christian Bobin. Et c'est pour cela que l'amour de Dieu ouvre à la réalisation spirituelle personnelle qui passe par un combat contre soi-même pour soi-même être face à Dieu. Processus de découverte de soi qui révèle au passage l'ange, parce que l'ange, et je cite, est ce soi-même que chaque moi découvre dans l'acte de se connaître soi-même. Comme le dit Corbin, chaque être, en atteignant la conscience de soi, fait l'expérience de la dualité de son être. L'anthropologie philosophique de Corbin est devenue anthropologie métaphysique. Je vous remercie.